Le Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Le Spacecast avec Jean-Francis Blais et Louis Gauvin qui vous accompagne jusqu'à 22h 88 670 9098. C'est le numéro pour nous rejoindre, comme le font plusieurs de nos auditeurs, soit pour nous dire de la marde, des blagues, des commentaires, poser des questions ou y aller de remarques sur la circulation. Puis si on l'apprécie particulièrement en ce moment où c'est un temps de cul, là, accident dans ma face sur Henry IV, sur Henri IV. Henry IV. Henri IV Sud, le petit gars en Hyundai m'avait dépassé à genre 120 km/h 3 minutes avant. Il me collait voie de hanche, voie de gauche, I guess, et j'étais déjà à 100. Ouais, voie de gauche.
Karma!
Karma is a bitch! Petit gars, la casquette à l'envers en Hyundai.
Voilà.
Ouais,
fait ça, que... c'est toujours le fun, hein, voir le karma sur la route.
Quand même, on espère que le kid s'est pas fait mal, là, mais, moi, mais oui.
Je vais toujours me rappeler d'un moment là, où un bâtard là, me collait dans le cul, une affaire épouvantable. Je roulais déjà genre 135. Là, fait que t'as pas d'affaire à me coller dans le cul quand je roule déjà 135.
Ouais, c'est ça. Ouais,
je suis déjà fucking illégal. Puis il me collait, puis il me collait, puis il me collait, puis il me collait. Puis là, il me flash les autres, puis il fait des zigzags en arrière. Moi, si tu flashes les autres, tu fais des zigzags en arrière, il y a des chances que je ralentisse. T'sais.
Eh oui, mais ben c'est sûr. Mais des fois, t'es un malade. Mais pour vrai, moi, je pense que tu ralentis, il sort, puis il vient avec son bat de baseball. Ben oui, c'est un cas de road rage.
L'autoroute, exactement. Puis là, t'sais, il fait ça, puis à un moment donné, tu sais, je finis par dépasser le monde. Fait, OK, c'est beau, arrête, tu gosses. Je me tasse à droite, je ralentis. Et au moment où je me tasse à droite, puis je fais un peu les breaks, puis je le vois passer, là, brrr, au fond, genre 160, là, parce qu'il est content enfin. Qui que je vois pas sur le bord du chemin,
comme
le sort jaune, puis le gun dans
main. Un collecteur de tickets.
Il part à la course et embarque dans le char. Après ça, là, j'ai pris à peine pour ralentir quand je passe à côté du gars, je l'ai regardé.
Avec un gros smile. Ah ouais!
Mon doigt, ouais. Le teint,
en mode prince à New York. Va voilà. Chier, va chier, oh, va chier, toi aussi!
Un pour toi,
j'en ai pour tout le monde! Oh wow!
Ah, ça, c'est jouissif un moment de même.
Yes. Hey, autre affaire avant qu'on aille rejoindre notre invité. Je remercie DH et Jordan. En fait, Jordan, DH a donné quoi à Jordan tantôt? Puis peut-être vous l'avez remarqué depuis le début de l'émission, j'ai bien d'énergie, puis je parle vite, vite, vite. J'ai goûté une patente qui s'appelle Douce. Ça marche, man.
J'espère, à 100 mg de caféine, que ça marche.
Mais c'est pas si pire, 100 mg.
Parce c'est un Red Bull, là.
Un petit Red Bull, c'est 70. Un gros, c'est autour de 140. Puis la plupart des rockstars de ce monde, c'est autour de 170-180
mg. Okay, fait que
ça s'enligne bien. Puis je n'ai pris un tantôt. Mais moi, c'est ça, la nuance, c'est que j'avais déjà un 160 de but.
Ouais. Ça explique bien
les affaires. C'est pour ça que je suis comme content, puis je grouille sur ma chaise.
Ça a l'air
en forme. Ouais, je me sens comme le singe là, avec des cymbales.
Oui.
Il me sent de même un peu. Fait que, j'ai hâte de voir le crash, mais à date, c'est un beau produit. Prends de ma vie, je vois ça. Ça a l'air d'être une entreprise du Québec douce.
Ouais, ça vient de
Salaberry,
de Valleyfield. C'est-tu bon? Parce que souvent, ces affaires-là vont fonctionner, mais il va avoir tout le temps un petit arrière-goût de fond de cul.
Le goût est pas mauvais.
Limonade rose, en plus, c'est un goût qu'on voit pas souvent, qui a l'air très bon.
J'ai goûté tantôt, moi, c'était cerise. J'ai pas eu ça. Ça goûte fort, là.
Ouais, c'est, évidemment.
Là. Tu boirais pas un 18 litres de ça, là, mais...
C'est
comme un gel. C'est la première fois de ma vie je goûtais un gel du genre, puis ça fait le job.
Très cool. J'ai hâte de courir avec ça aussi.
Ouais, effectivement, c'est une bonne idée. All right, hey, dans un autre ordre d'idées complètement, c'est le moment de la semaine où on va jaser avec notre chum Yann Monette de chasse, de pêche. Mais là, la pêche, d'après moi, c'est un petit peu plus tranquille.
Ah, pêche à la glace, ça s'en vient.
Ouais, ça s'en vient. Mais justement, on s'en va le rejoindre. Salut, Yann.
Hey, salut les boys, comment ça va?
Ça va très bien toi-même?
Ben oui, écoute, on lâche pas.
Yes. Hey, je veux jaser d'une histoire avec toi. J'en ai jasé la semaine passée. Je suis curieux d'avoir juste ta réaction par rapport à ça. Une histoire qui nous provient de la Virginie. Un raton laveur. En fait, les employés d'un liquor store, d'un genre de SAQ, parler pour se comprendre, arrivent un matin, le lendemain du Black Friday, puis ils pensent que le magasin a été vandalisé, les bouteilles sont éclatées partout, arrivent dans les toilettes, puis trouvent un raton laveur canté sa bédaine, comme Homer Simpson, sous raide. C'est le raton laveur qui a saccagé le magasin et qui s'est saoulé dans la nuit.
Ouais, ben écoute, je l'ai vu passer cette affaire-là, puis j'ai fait des recherches, puis écoute, c'est quasiment sorti d'une bande dessinée, cette affaire-là, puis je me suis informé, puis ça a de l'air vrai.
Ouais, aussi.
Écoute, ben, tu sais, c'est un raccoon, c'est un petit voleur, ça, hein?
Ouais.
Puis, on sait que les ratons laveurs sont de plus en plus fréquents en campagne, nous autres, on l'a. Nous autres, c'est fréquent. Mais on dirait qu'ils viennent de plus en plus s'habituer aux humains. Puis, ça fait que, tu sais, un raccoon, c'est comme un mini-humain. On va dire ça comme ça. Fait que ça touche à tout, ça goûte à tout. Fait que, d'après moi, quand il a sauté dans le sourpuss, ben, il s'est organisé pour avoir du fun. Puis, écoute, tu sais, on peut parler des animaux avec l'alcool. Tu dois sûrement connaître ça, la fameuse boisson de la maroula, OK?
Oui.
Bon, ben cette boisson-là sort du fruit de la maroula. C'est un fruit bien spécifique, si je me trompe pas, quand je me suis informé. C'est en Afrique ou quelque chose de même. Là. Je suis plus trop sûr. Mais parce que dans les recherches que j'ai faites pour comprendre l'alcool avec les animaux, le fruit de la maroula, quand il tombe de l'arbre, OK? Puis qu'il tombe au sol, puis que ça prend X nombre de temps avant que les gibiers vont le trouver, il va se créer une genre de fermentation qui va faire justement de l'alcool de maroula.
OK.
Puis quand que les éléphants, les antilopes ou les girafes, c'est nommé tous ceux qui vont alentour de ça, mais quand ça fait qu'ils en mangent trop, ils deviennent sous.
Ah, ouais, c'est malade, ça. Mais moi, je me suis posé la question avec le raton laveur. Tu sais, s'il a tinqué toute la nuit à grands coups de Jack Daniel, puis de Sour Puss, puis tout ça, est-tu mort d'un coma éthylique, lui, le pauvre viande?
Hey, ça, c'est une bonne question, mais il doit être mêlant en tabarnane.
Ah oui, il va avoir mal à la tête le lendemain, ça, c'est clair.
Ah, 5 grammes, il devrait m'en faire tout croche en 5 grammes.
Ouais. Hey, mais tu parles des ratons laveurs, puis tu m'as envoyé un article concernant des mutations de ratons laveurs. On est trop friendly que les ratons laveurs, c'est en train de...
Ils sont pas cool, là. Ils sont beaux, mais ils sont pas cool.
Ben, tu sais, le problème, là, en fait, le problème, c'est pas les ratons laveurs, c'est nous autres, c'est les humains, OK?
Mm-hmm.
Tu sais, plus que... On est pas rien que ça, nous autres. On les appelle les fameux, c'est les CCDB, OK? C'est les chouclaques de béton. On les appelle le même chez nous, ici.
Okay.
Puis, le problème de ça, c'est que peu importe l'animal, que ça soit, que tu vas aller à un écureuil, à une corneille, à une souris, à un raton, à un coyote, à un ours, faut pas que tu oublies que c'est un animal sauvage. Fait que tu sais jamais quand est-ce qu'il va décider de faire quelque chose. Puis, ben, l'article que je t'ai envoyé, c'est à cause de ça. La fameuse mutation qui parle, c'est à cause de ça. Si j'ai pas trouvé de source fiable, mais de ce que j'ai regardé, qui est très, très fiable, c'est que avec l'étude qu'ils ont faite, c'est que la fameuse mutation, c'est que le raton laveur est en train de changer un peu sa morphologie qui est faite pour justement s'adapter à l'environnement de la ville.
Mmh.
Fait que, tu sais, le nez, de ce qu'ils ont vu, ils ont les ratons laveurs qui tiennent dans où est-ce qu'ils ont fait l'étude, aux États-Unis, je me souviens trop où exactement, mais ils ont regardé que les ratons laveurs, ils ont un nez 4% plus court que la normale. Fait que, tu sais, je ne sais pas si c'est parce qu'ils passent son temps collés dans les vitres pour essayer de regarder, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, mais tu sais, c'est grave, là, pour vrai, là, quand c'est rendu que il y a beaucoup d'animaux sauvages qui rentrent dans les villes, puis qu'il y a une mutation qui se fait à cause qu'il est trop en contact avec les humains. C'est quelque chose. Puis tu sais, la mutation, c'est, je ne sais pas pourquoi que le nez est plus court, mais tu sais, moi, j'en déduis qu'à l'état sauvage, ben un raton laveur, vu que c'est un charognard qui va manger un peu de tout, le nez plus long, ça va faire qu'il va être capable de se glisser le nez un petit peu partout pour manger. Tandis qu'en ville, je sais pas si c'est parce que la bouffe est plus facile que le nez va raccourcir. Je suis pas capable de voir, mais moi, dans ma tête, ce serait probablement à cause de ça, la fameuse mutation que tu parles, le fait qu'ils n'ont plus besoin de ce tonnet-là. Ou, je ne sais pas, mais moi, dans ma tête, ça serait possiblement. Peut-être que je suis dans le champ complètement, mais dans ma tête, ça marchait comme ça, la fameuse mutation. Là.
Mais la théorie fait du sens. Puis, tu sais, je reviens au fait d'arrêter d'être comme, entre guillemets, trop friendly envers les animaux sauvages. Puis, tu me fais penser à un exemple pas loin de chez nous. Nous autres, on a l'habitude d'aller dans un petit lac où, je te dis, c'est un phénomène fucked up. Là. Depuis quelques années, les canards viennent là en plein hiver. Puis, on pognait du monde qui nourrissait les canards au pain, aux tranches de pain. Mais ça, là, ça génère des vers dans les canards. T'sais, c'est pas bon pour eux
ben
autres.
Oui. Ben non. Mais écoute, le même principe que le monde qui font du nourrissage d'hiver pour les chevreuils, parce que un chevreuil, quand tu le nourris en hiver, c'est correct, mais tu peux. Exemple, les touristes, ben ça arrive souvent qu'on voit des photos, le chevreuil a des gros abcès, ils ont les joues gonflées. Ben ça, c'est parce qu'ils sont nourris juste au grain ou juste à mouler. Nous autres, on sait que quand on fait un exemple du nourrissage d'hiver, puis que c'est bien fait, que c'est bien géré, le nourrissage d'hiver, la meilleure affaire à faire, c'est avec la luzerne. Pourquoi de la luzerne? C'est parce que si tu lui donnes juste de la moulée, ben ça va faire qu'il va pas avoir d'herbe qui va agir comme si c'était une brosse à dents, qui va venir nettoyer ses dents, qui va faire que ça va empêcher de faire des abcès.
Ah ouais, OK. Puis est-ce que ça affecte-tu la qualité de la viande plus tard après ou?
Ben, en fait, c'est parce que le chevreuil, il meurt.
Ah, oh, OK,
il meurt parce qu'en fait, l'abcès que ça fait, ça lui fait un trou dans la joue. Puis quand l'abcès pogne, que le trou dans la joue pogne, l'infection pogne, puis là, la gangrène pogne là-dedans, puis le chevreuil passe pas à travers.
Hey, c'est temps-ci, on chasse quoi, hein, à ce temps-ci de l'année? Est-ce que le gros fret peut être bénéfique sur quelque chose pour les chasseurs?
La neige aussi.
Le gros fret, m'a dit, ma dernière journée de chasse, j'ai fait 10 heures dans mon stand pour essayer de récolter un boc. Puis je l'ai pas pogné, c'est un crème, il a pas passé à la bonne place. Mais le fret, le froid ne change pas grand-chose. La neige, c'est différent, par exemple.
OK.
Le déplacement des chevreuils, le déplacement des orignaux, la migration des canards, tout change. Mais c'est quelque chose à faire au moins une fois dans notre vie de chasser sur la neige. Puis c'est le temps parfait pour... Puis là, on est de bonne heure. Fait que là, c'est le temps parfait pour faire du lièvre, pour faire de la perdrix, parce que ça neige... T'as une chance incroyable de les voir, de voir tes perdrix, de voir tout ça. Il y a le piégeage qu'on peut faire. Puis surtout dans le temps des fêtes, la fête du coltage, là, c'est une activité qu'on fait bien, très, très, très en famille.
T'as-tu moins à te soucier des odeurs en hiver, vu que le froid, c'est peut-être une perception erronée que j'ai, mais on dirait que ça neutralise.
En fait, oui et non. Oui, pour faire attention, mais tu sais... C'est sûr que t'as moins d'odeur parce que t'as pas de transpiration. Quand il fait frais, ben souvent t'as un cache-cou qui va cacher ton visage. Fait que, mais oui, si exemple on chasse, c'est exemple en ce moment, je déciderais d'aller à la chasse parce que là, pour le Québec, la chasse au chevreuil, c'est fini. Mais si je déciderais maintenant d'aller en Ontario, est-ce que la chasse est ouverte, si je me trompe pas, jusqu'au 30 décembre ou quelque chose comme au 31 ou je sais pas trop des dates. Le principe est le même, le contrôle des odeurs est très, très, très... Pour le chevreuil, je te dirais, le contrôle des odeurs en tout temps, c'est très important.
OK. Quelqu'un te demande, est-ce qu'on peut... Attends un peu, je vais aller voir sa question. Puis ça, j'invite nos auditeurs à te poser leurs questions. Hein.
Ouais.
C'est toujours le fun, les gens connaissent plus ça que moi. Là. Est-ce qu'on peut tuer un coyote avec une slug de 0.410? Qu'est-ce que ça veut dire,
410.
Ça?
410.
Comme... C'est quoi ça, 410? Fait... C'est un char d'assaut, ça?
Non, 410, c'est un calibre. En fait, c'est juste en bas du 12.
OK.
C'est un calibre, je te dirais... C'est... Habituellement, on s'en sert souvent pour initier les enfants, mais moi, j'adore ça pour faire du petit gibier. Mais oui, en fait, au 410, avec une slug, ça se ferait très, très bien. C'est sûr que faut que tu sois quand même assez proche, parce qu'une slug... Ça n'a pas une grosse portée. Ça a une bonne force de frappe, mais à courte portée.
On a-tu le droit de chasser un coyote?
Chasser le coyote, on peut faire ça?
Ben oui, chasser le coyote, t'as le droit. C'est une chasse qui est vraiment le fun à faire. Chasser le coyote, c'est aussi difficile que chasser le chevreuil. Le contrôle des odeurs, regarder son vent, le caoul, parce que ça se fait sur le caoul.
Ah, ouais.
Puis, c'est vraiment le fun à faire. C'est tout qu'un feeling à faire.
La viande, tu comparerais ça à quoi?
Ah, moi, je mange pas ça.
Ah, ouais?
Honnêtement, mais tu sais, j'ai jamais mangé ça. Mais tu sais, c'est un chien. Fait que tu sais,
Ouais, j'avoue que.
Mais écoute, on parle. on parle de prédateurs. Juste avant de rentrer en onde, je suis tombé sur un article. D'après moi, le monde va capoter bien raide. Tu sais, là, on est drette dedans. OK, il y a plein de lois là, qui arrivent pour, justement, les chasseurs de chevreuils. Ils essayent de nous mettre ça compliqué, tout ça. Puis, je suis tombé sur un article. Tu sais quoi le plus gros prédateur au Québec?
Plus gros prédateur au Québec?
Le plus menaçant au Québec.
Un pécan.
En termes, mettons, de proie qui va manger. D'après toi, c'est quoi?
Moi, je dis un pécan.
C'est quoi ça, un pécan? Je pensais que c'est une sorte de noix, un pécan.
Un pécan, c'est un genre de petit ours.
Ah ouais, OK. Écoute, moi, je vais dire un coyote.
Un coyote, tu veux vraiment... Tu vas tomber en bas de ta chaîne, mais que je te dis, c'est les chats.
Les chats? Hein?
Eh oui, ça dit de la souris au pied carré, ça.
Ouais, écoute, je suis tombé sur cet article-là, puis depuis, je te dirais, à peu près... 5 ans, depuis l'année de la COVID, le fait que le monde a resté en cabané, puis que le monde avait de la misère, puis que le monde... En fait, c'est pas vrai. C'est ça. C'est depuis que la COVID est finie, il y a eu un paquet de personnes qui se sont appropriées des chats en ville, puis qui ont décidé de s'en débarrasser pour au lieu d'aller porter à les places pour ça. Ils ont décidé de les lâcher, OK?
Ouais.
Je vais sortir des chiffres, juste pour te donner une idée, là. Au Canada... OK? Les chats tuent en moyenne entre 100 et 350 millions d'oiseaux par année.
Hein? OK? Hey,
c'est un prédateur de fou. Puis, sais-tu quoi, le pays? Le gouvernement prend même pas compte. Il regarde même pas ça. Hey, écoute, chez nous, là, on est pogné justement avec ça, avec des SCDB du monde de la ville qui arrivent puis qu'ils ont des chats. Puis qu'ils décident de laisser leur chat lousse. On passe notre temps à mettre des cages, à les attraper, puis aller les reporter, parce qu'ils ont peut-être des petits colliers. Tu sais, Mémine a tout un collier.
Mm-hmm.
On passe notre temps à faire ça, parce que les chats vont rentrer dans nos poulaillers, ils vont rentrer où est-ce qu'on a nos lapins, ils vont tuer nos poules, ils vont tuer nos lapins. C'est quelque chose que le monde ne pense pas. Mais c'est un maudit prédateur, ça, les chats.
Ah, non, effectivement, ça, j'aurais jamais cru ça.
Moi non plus.
J'aurais jamais cru.
Mais écoute, c'est fou. Tu sais, maintenant, ça va tuer les petites souris, les campagnols, les jeunes lièvres, les bébés écureuils. Ça va aller jusqu'à tuer des grenouilles. Tu sais, parce qu'en fait, un chat, oui, c'est un prédateur, mais ça s'amuse aussi en même temps. Fait que, tu sais, il n'y a comme pas la notion de survie. Il y a la notion comme de s'amuser parce que il est comme 50-50. C'est un prédateur, mais c'est un animal domestique.
Mm-hmm.
Fait que c'est tous les animaux qui passent, lui, il est tué. Il les mange pas nécessairement, mais c'est comme un chien. Un chien qui voit un chevreuil, il va partir à course après, il va pas nécessairement le manger, mais il veut s'amuser. Fait que à force de courir après un chevreuil, il va le tuer, mais il va pas nécessairement le manger parce qu'il comprend pas pourquoi que le chevreuil est mort, puis... C'est ça.
Et puis en plus de fucker le pH de la faune, on va le dire de même, ça doit pas être idéal pour la propagation des maladies puis tout ça. Là, peut-être qu'on n'a pas eu encore, mais on dirait que je gamble. Ah. Je ferai pas de gambling avec ça, là. Parce que tu sais, ça mange. Ben, écoute, tu l'as dit, ça passe de la ville à la forêt, ça un peu charrier des cochonneries.
Ça revient dans la maison, puis le monde se frotte après ça.
C'est ça, c'est un peu le même principe que les ratons laveurs, là. Ça mange n'importe quoi, là.
Ah écoute, oui, c'est. Puis même c'est pire parce que. Les chats, ça peut se traîner un paquet d'air. Puis même, je te dirais souvent, les ratons laveurs sont plus propres parce qu'un raton laveur, ça se lave.
Ouais. Ah ouais.
Ça, ben, tu sais, oui, c'est quand on trappe le raton laveur. Oui, c'est boudé. Tu sais, mettons, en ville, c'est très, très boudé, mais quand tu attrapes un raton laveur, là, c'est super propre. C'est propre comme... Tu sais, en fait, il n'y a pas un animal qui est sale. Les chats, je ne traite pas, ils ont peut-être une petite odeur, mais un raton laveur...
Oh, t'es-tu là?
Tu m'entends-tu?
Oui, on t'a perdu à un raton laveur.
Ah, non, en fait, c'est ça. Un raton laveur, là, quand on l'attrape, là, c'est super propre comme animal.
OK. Ah, ouais. OK. Ah, j'aurais pas cru ça.
Ouais, non.
Est-ce que c'est permis de chasser le raton laveur ou faire du trapage de raton laveur?
Le trapage est permis. La chasse au Québec, je crois que non. Faudrait que je m'informe, mais le trapage de raton laveur, oui, je te dirais... L'année passée, j'ai arrêté de compter, je pense, à 30 ratons laveurs chez nous d'attraper.
Hey, t'as
on a eu On a eu une épidémie de ratons laveurs. J'ai réellement arrêté de compter à 30 ratons laveurs.
Aïe, aïe, mais l'idée de... Là, vous, c'est pour protéger vos poules puis tout ça, j'imagine?
En fait, moi, c'était pour protéger mes poules, mes lapins, ma moulée à chevreuil, parce que les ratons laveurs, ils vont sauter dans ma moulée, ils vont manger la moulée, ils vont faire leurs excréments dans la moulée. Fait que ça va faire que ça va pourrir ma moulée, les chevreuils vont le manger, puis là, mes chevreuils tombent malades.
OK.
Fait que moi, c'est vraiment un contrôle très, très, très important qu'il faut que je fasse, parce que là, après ça, ils vont rentrer dans ma grange. Moi, c'est une ferme, mais j'ai l'entreprise aussi qui est la fermonette qui est dedans. Mm-hmm. Fait que là, les ratons laveurs vont rentrer en dedans, ils vont me faire du dommage, ils vont m'ouvrir les portes. Les portes, ils vont trouver le moyen de rentrer en dedans, puis tout ça, c'est une ferme. Fait que non, mais ça va faire du très, très gros dommage, puis souvent, on le voit, là, t'arrives à des places, puis t'as des vidanges à grandeur, puis tu donnes une tape sur le bac, puis tu vois deux paires de yeux de voleurs qui sont en train de fouiller, là.
Ouais, tu vois Robin au loin.
C'est très mal commun de raccoon.
Hey, avant qu'on se laisse, je veux jaser avec toi de trapage. T'as ouvert la porte, justement, sur le trapage de ratons laveurs. Apparemment qu'actuellement, il y a un problème à Rimouski. Les citoyens lèvent la main en disant, là, il y a tellement de pièges de trappeurs qu'on a peur que les animaux de compagnie meurent trappés dans les fameux pièges.
Ce problème-là, là, je te dirais, c'est 50-50. C'est 50% les trappeurs, c'est 50% le monde de la ville.
Ouais, qu'est-ce que tu fais à laisser tes animaux lousses?
Ouais, c'est ça.
Ouais, puis tu sais, quand tu le sais qu'à telle date de l'année, tu vas prendre une marche à une place, que tu sais que t'es dans le bois. Quand, mettons, exemple, que je suis avec mon chien, que je vais dans des places, que je sais qu'il est safe, ben là, c'est correct, je vais y enlever la laisse, c'est mon chien, moi, il est éduqué, fait tu sais, il va rester proche de moi. Mais quand je vais dans des places que je suis pas sûr, même si mon chien il est éduqué, il va avoir une laisse. VS, de l'autre côté, l'autre côté de la médaille, les trappeurs, si je serais un trappeur et que je trapperais proche des zones urbaines, ben de un, je mettrais des pancartes. Où est-ce que mes pièges seraient? J'aurais des flags pour annoncer que j'ai des flags. Pour annoncer que j'ai des pièges.
Ouais.
Puis si c'est des places où est-ce que, mettons, que les chiens vont se promener, où est-ce que, mettons, exemple, les personnes vont aller se promener, soit aussi avec les enfants, ben, moi, tout le temps m'organiser pour mettre mes pièges en évidence pour le monde, ou ben, je vais les mettre en hauteur pour justement pas que ça arrive, parce que justement, j'ai vu un article il y a à peu près 2-3 semaines d'une photo, c'est un pitbull ou quelque chose comme ça, qui est mort justement dans un piège. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, je te dirais, c'est tout le temps 50-50. C'est 50% de la faute des trappeurs, 50% de la faute du monde. Parce que, tu sais, faut que tu t'informes tout. Mais à base, quand t'es un trappeur, que tu chasses proche des zones comme ça, faut tout le temps que tu traînes une pancarte marquée zone de trappe, attention à vos animaux. Pour pas, tu sais, parce que ça te tente pas d'avoir ça dans ton piège le matin.
Non, c'est clair. Mais y a-tu une réglementation par rapport au zonage où t'as le droit de faire du trappage, ou ben c'est où tu veux,
ben,
pis...
En fait, ça dépend des lois municipales.
OK.
T'as des places où est-ce que t'as le droit. Tu sais, exemple, je vais te prendre la meilleure exemple, c'est Gatineau, OK? La ville de Gatineau, elle a... C'est aussi... Je vais te parler aussi pour la chasse, mais elle, c'est... J'ai aucune arme sur le territoire de Gatineau, mais pour le piégeage, j'ai rien décrit. Fait que t'as le droit.
OK.
Fait que le monde, exemple, dans le parc du lac Beauchamp... Ben, à cette place-là, ben là, le monde va faire du pelletage, ils vont attraper des perdrix, ils vont attraper des lièvres. Mais en fait, c'est juste de bien s'informer dans les municipalités si on a le droit. Mais j'ai jamais entendu dire qu'il y a une municipalité au Québec où est-ce qu'ils interdisent le trappage.
OK. J'ai jamais vu ça, un piège de trappage. Jamais vu ça, un collet. Un humain qui tombe là-dessus ou qui se met le pied là-dedans, ça fait-tu mal ou c'est juste des...
En fait, un collet, non. Parce qu'un collet, en fait, la manière que c'est fait, c'est vraiment... C'est comme un nœud pendu, style.
Okay.
C'est que lorsqu'un gibier va arriver, un collet, justement, c'est principalement pour le lièvre, le renard, le coyote, le loup. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va arriver, puis quand il va se passer la tête, ben le collet va venir serrer. Puis de la manière que c'est fait, c'est que le gibier va se coucher puis il va se laisser aller tranquillement. Ça, c'est la partie coltage. Ensuite de ça, quand on tombe, par exemple, pour le castor ou bien pour le raton laveur, c'est des pièges qu'on appelle, c'est des Coney Bears. C'est un piège, en fait, en forme de carré. Puis t'as différentes grandeurs. Je peux tout te nommer parce que je les connais par cœur. Ça va du plus petit au plus gros. Fait que t'as 110, 120, 130, 160, 180, 220 puis 330. C'est toutes des grosseurs de pièges différents pour justement le 330. On s'en sert beaucoup pour faire du castor parce que le castor, c'est très, très, très solide. Fait que je te dirais, le 330, d'un coin à l'autre, il y a à peu près 12 pouces. Okay. Mais ce piège-là, là, quand tu te mets les doigts dedans, là, fais pas ça.
Parce que tu peux partir avec un doigt ou.
Je m'excuse de dire ça en nombre, mais si que ça fait mal.
Ah ouais, OK, ça snap.
Ça m'est déjà arrivé, mais en fait, c'est pas un piège qui coupe. C'est pas comme dans le temps avec les pièges avec les dents. Là, c'est ça. En fait, la manière que le piège est fait, c'est que, exemple, on va venir le craquer. C'est un carré avec une broche au milieu puis deux springs sur le côté, OK? Puis en fait, c'est que quand un gibier va venir accrocher la languette, le piège, il va se fermer. Puis soit ça va tomber sur la colonne ou sur le cou, puis la mort est instantanée.
OK. Puis tu mets de la bouffe ou de quoi pour l'attirer dans le centre pour qu'il vienne peser?
Souvent, tu vas mettre de la bouffe ou bien souvent, ce sont les passes. C'est quand on est en hiver, ben exemple, les loutes ou ben les castors, on va voir les trails. Fait que t'es capable de mettre ça avec des supports, t'es caches avec les branches. Fait que ça fait qu'eux autres sont habitués de passer là. Fait que quand ils vont passer là, ben là, c'est là qu'il y a des chances de le récolter.
Okay.
Mais quand t'es...
On t'a reperdu, ouais.
Ah, Colin.
Quand t'es...
Que là, tu m'entends?
Ouais, là, je t'entends bien, ouais. Quand t'es...
OK, ben dans le fond, là, quand t'es que t'es à la trappe, OK, puis que t'installes ton piège, il y a une barrure qui s'appelle une barrure de sécurité. Ça sert que quand tu craignes ton piège, tu viens mettre ce barreur-là pour empêcher de squeezer les doigts dedans.
Ah, OK.
Ben, c'est déjà arrivé que je l'ai oublié. Fait que quand tu fais tout ton setup, tu stresses que tu vas l'accrocher. Fait que souvent, ça va tout bien. Mais des fois, une seconde d'inattention, tu décides d'accrocher à la languette, puis quand la main te pogne dedans, là, elle t'écrase à terre, puis tu fais « Oh mon Dieu, ça fait mal!
Ah, » ouais.
Là, parce que là, t'es pogné. Parce qu'il te faut tes deux mains pour le décrinquer.
Ah, fait que t'as besoin d'aide.
Là, des fois, t'as besoin d'aide, mais là, nous autres, on a des pinces spéciales qui, à une main, tu pognes ça, tu viens le squeezer dans le piège, tu viens tordre le piège, puis là, t'es capable de te sortir la main. Mais ça m'est déjà arrivé que quand j'ai craqué le piège, j'ai manqué mon cou, je me suis squeezé à bédaine dedans, je me suis déjà squeezé à la cuisse, je me suis déjà squeezé le petit doigt et écoute, on a-tu le temps encore un peu pour peut-être une petite histoire?
Oui, vas-y.
Écoute, je commence à attraper, j'ai à peu près, 9-10 ans, OK? Fait que, il y a une shot, tu sais, je trappais beaucoup avec mon père. Puis, quand on est jeune, j'étais un petit gars, on reçoit des nouveaux pièges, je suis fou comme la merde. Fait que, on les reçoit. Mon père, lui, est à la ferme, c'est pas loin, c'est peut-être à une minute en troc, tu sais, il est collé. Puis ben, moi, je suis dans le salon, puis je suis en train de gosser dessus. Tu sais, je suis en train de gosser ses pièges. Puis ma mère est là, puis elle me voit, tu sais, je gosse avec les pièges. Mais les pièges sont pas armés. Ils sont pas, tu sais, il n'y a pas de danger, mais j'ai réussi à l'armer. Fait que quand je l'arme, je me souviens pas comment que j'ai fait, mais je me suis glissé la main dedans. Le piège, il me serrait bien tranquillement, mais tu sais, ça me serrait la main, mais ça a pas fait clac.
Okay.
Ça a juste serré la main. Puis, ben, il m'a fallu mon papa pour venir m'aider parce que ma mère a commencé à capoter parce que je suis venu comme la même eau.
Ah, OK, t'es en train de...
Ben,
wow.
Ça fait partie du classique du trappeur, que si tu penses d'amener trappeur puis pas te squeezer les doigts dans ton piège, oublie ça, c'est sûr, ça va t'arriver.
Comment est-ce qu'on commence à faire du trappage, hein? Parce que tu nous as déjà parlé du cours pour apprendre à chasser, permis port d'armes, tout ça, là, tu sais.
C'est la même chose.
Ah, ouais, OK. Tu penses par les mêmes étapes.
C'est la même chose, en fait. C'est ça, en fait, t'as ton cours de piégeage, puis il est vraiment le fun parce qu'ils vont te montrer tout le processus. Mettons, exemple, où acheter tes pièges, comment faire, connaître les bonnes espèces, parce que, tu sais, exemple, il y a des espèces, des fois, où est-ce que t'as pas le droit, fait qu'ils vont te montrer la végétation, la bonne place où le faire, comment le faire.
Ils t'apprennent-tu à reconnaître les traces au sol?
Ben oui, c'est la base du trappeur, ça.
OK, ah ben moi, ça me ferait triper d'apprendre ça.
Wow, écoute, si tu veux devenir un bon trappeur qui va venir aussi être un bon chasseur, c'est par les traces. sais, parce que t'as des traces, exemple. Tu sais, si maintenant t'es sur le bord d'un lac, tu vois comme une genre de glissière, pas une glissière, là, mais une genre de
longue traînée, là, si on veut, là.
Ouais, une genre de longue traînée, ben ça, c'est un classique, que ça, c'est des loutes.
OK, ah, oh, ouais.
C'est pas les castors. Des loutes, ça s'amuse tout le temps. Fait que c'est bien, bien rare que tu vas avoir des traces de loutes. Des loutes, souvent, là, ça va monter sur le top des montagnes parce qu'ils cherchent de la bouffe. Puis quand ils redescendent, ça s'amuse presque tout le temps. Ils vont partir d'en bas, puis ils vont venir glisser.
Okay.
Mais est-ce, exemple, un bison? Ben, un bison, la manière que ses traces sont faites, aussitôt que tu vois un peu d'eau, souvent, tu vois le bison qui ressort, puis qui va venir manger ses proies proches de l'eau, ou bien les castors qui vont se tenir proches des barrages. Ou, exemple, les coyotes. Sais-tu comment faire la différence entre un coyote puis un loup avec les traces?
Pas en tout, non.
Le coyote est fait beaucoup plus pointu.
OK.
Le coyote, là, vraiment, là, quand, exemple, que tu le regardes, là, il est fait vraiment comme un triangle. Tandis qu'un loup, il est fait, la patte est vraiment ronde.
OK.
Elle est ronde quasiment comme un ours. Elle est ronde, 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 ronde.
Ah, ouais, OK.
Et ça, c'est quand t'es trappeur. Parce que quand t'es trappeur, c'est important. Parce que quand t'es trappeur, le summum du trappeur, c'est d'attraper un loup. Fait que quand tu vois des traces de coyote, puis que tu vois une trace, que tu vois que c'est un loup, ben, c'est comme la Coupe Stanley, là, pour les gars de hockey. C'est la même affaire pour nous autres. Attraper un loup, c'est le summum du trappeur.
Mmh.
Parce que là, l'important de bien connaître les traces, de bien connaître les la forêt, les essences ou quoi que ce soit, c'est la base du trappeur.
Ah, super. Vraiment intéressant. Pour vrai, à chaque coup qu'on jase, tu me donnes encore plus le goût. Puis je sais pas pourquoi le trappage, il y a de quoi qui me parle là-dedans, ça m'intéresse.
Ben écoute, c'est beaucoup plus accessible aussi.
Ouais.
C'est le fun. Puis tu vas avoir une première impression avant de passer par le piégeage, tout ça. Tu peux juste aller tâcher juste ton petit permis de pelletage. Puis tu peux commencer là, tu peux attraper de la perdrix au coltage, tu peux attraper du lièvre. Fait que c'est le piégeur qui veut commencer, va commencer avec le lièvre, ça va donner une très, très bonne impression du reste qui va suivre.
Puis, t'es-tu quoi? Par cœur, je comprends que je te demande quand même une colle un peu, là, mais la ville de Québec, tu sont très restrictifs là-dessus, le piégeage, puis tout ça?
Écoute, je pense pas, écoute, informez-vous, c'est juste pour être sûr, mais j'ai jamais vu aucune municipalité qui a interdit ça.
Ah oui? Ah, OK. Ben, c'est une belle nouvelle. Moi, j'habite en arrière d'un ancien golf, puis apparemment qu'il y a plein de... soit des lapins ou des lièvres, là, je sais pas trop. Comment différencier des traces?
C'est des cotton-tails, en fait. Souvent, le proche des villes, c'est une petite sorte de... C'est une sorte de lapin. C'est comme un genre d'hybride. Puis, en fait, faire la différence entre un lapin et un lièvre, souvent, les lièvres, ils font pas des gros bonds. Un lapin, il fait pas un gros bond. Un lapin, c'est nonchalant. Ça va avancer tranquillement. Tandis qu'un lièvre, souvent, c'est tout le temps paquet de mer.
OK.
Ça court à gauche, ça court à droite, ça court à gauche, ça court à droite. Fait que, mais souvent, proche des vis, c'est des cotton-tails, mais ça se trempe aussi.
OK. Ah, c'est bon à savoir ça. Hey, merci, ouais. Yann. J'ai très hâte qu'on se reparle. Je sais pas si on va se reparler d'ici Noël. Fait que je te souhaite un joyeux temps des fêtes avec toi, toute ta famille, toute ta gang. Puis un gros merci, Krim, pour toutes les fois où tu nous as jasé de ta passion. Tu la transmets, puis les gens disent, hey, c'est malade, on aurait l'impression d'écouter son père. Oui, à cause de la voix, mais aussi, surtout, à cause de la passion que tu nous transmets. Merci beaucoup, man.
Hey, un gros merci. Moi, c'est bien apprécié.
Hey, ben, passe un bon temps des fêtes. Salut, Yann.
Ah, c'est bon, vous autres aussi, salut.
Ah, merci, salut. C'est Yann Monette, le chum Yann, qui nous jase une fois de temps en temps de chasse et pêche.
Yes, sir.
Trippant. Moi, j'adore jaser avec ce gars-là, vraiment. C'est un univers que je connais zéro. Tu sais, moi, je savais même pas d'un colis. Si je mets ma jambe là-dedans, je perds-tu ma jambe? Je t'ai vu rire, là. Mais...
colis, faudrait que tu te forces fort pour faire ta jambe. Ouais,
je voudrais que ce soit un petit gros colis.
J'espère
que
t'as une bonne paire de pêche pour tirer dessus.
Ouais, c'est un genre de colis qu'on trouve plus en Ukraine qu'à Val-Bélair, là, en ce moment.
Colis dynamité.
Ouais, c'est ça. C'est ça, un collet qui a été déposé par des drones, genre.
Ouais, exact.
Plus ce genre d'affaires-là. Bref, on fait une petite pause. Le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h. Restez là parce qu'au courant des prochaines minutes, il y a quelqu'un que j'ai très, très hâte de vous présenter. Quelqu'un que ça fait longtemps que j'attends de rencontrer. Puis je pense qu'on va vivre un beau moment ensemble. On revient.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.